VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 16 décembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
République démocratique du Congo, des parlementaires américains demandent à Joseph Kabila d'annoncer qu'il ne briguera pas un troisième mandat.
Au Burundi, les maisons de ressortissants belges, autres européens, fonctionnaires et diplomates internationaux, perquisitionnés hier à Bujumbura par des agents du renseignement.
Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. À l'ordre du jour, le déploiement à Alep d'observateurs internationaux pour surveiller les opérations d'évacuation de civils et de rebelles.
Les États-Unis vont riposter face aux actes de piratage informatique de la Russie lors de l'élection présidentielle du 8 novembre, a promis le président Obama.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Des membres du Congrès américain demandent au président Joseph Kabila d'annoncer qu'il ne se présentera pas pour un autre mandat. Ils lui demandent également de négocier de bonne foi et de manière inclusive une date pour la tenue des élections en 2017 en République démocratique du Congo. Les détails avec Eddie Isango.
Cinq membres de la Chambre des représentants ont signé la lettre adressée au président Joseph Kabila pour lui demander d'annoncer publiquement qu'il ne va pas briguer un autre mandat, ni modifier ou amender la Constitution pour rester plus de deux mandats. Ils l'appellent à mettre sur pied un gouvernement inclusif qui gérera les pays jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Selon ces députés américains, ces gouvernements de transition devra être négocié avec toutes les forces de l'opposition dans le respect de la Constitution, des droits fondamentaux, de la liberté d'expression et des rassemblements des Congolais. Les élus américains rappellent que les recours à la force contre les manifestations pacifiques est contraire aux valeurs et à la constitution de la RDC. Ils souhaitent qu'un accord soit trouvé avant le 19 décembre, qui marque la fin du dernier mandat de M. Kabila.
En RDC même, et selon Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, le gouvernement compte suspendre certains services sur les réseaux sociaux à partir du 18 décembre, la veille de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Les communications par e-mail ne devraient pas être affectées, mais ce sera le blackout pour les transmissions d'images.
Au Burundi, la police accuse la Belgique, ancienne puissance coloniale, de regrouper des Burundais et des étrangers en vue de perturber la sécurité. Les services de renseignement qui sont entrés dans les appartements de ressortissants belges et européens auraient des preuves, selon la police. La situation entre les deux pays est de plus en plus tendue, le Burundi accusant la Belgique d'abriter ceux qui ont voulu faire le coup d'État de mai 2015 et d'être la source de tous les maux que connaît actuellement le pays, nous dit de Bujumbura Christophe Nkurunziza.
Quartier Kabundo, centre-ouest de la capitale Bujumbura, ce jeudi matin, les maisons occupées par des ressortissants belges, européens, fonctionnaires et diplomates internationaux ont été perquisitionnées par des agents des services de renseignement. Le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye, qui a confirmé l'information, affirme que des citoyens sénégalais, guinéens, rwandais et des burundaises qui habitent près de ces appartements avaient été dernièrement regroupés en vue de perturber la sécurité au Burundi. Ces maisons appartiennent aux diplomates et à leur staff de sécurité à une avenue communément appelée Avenue du Large. Pour le porte-parole de la police, seules les maisons des personnes qui n'ont pas d'immunité diplomatique ont été fouillées, mais qu'en cas de flagrance, elles peuvent l'être. Les sources de l'ambassade de Belgique indique que les policiers qui ont fait la fouille perquisition avaient un mandat à cet effet, mais qu'aucune maison des diplomates n'a été fouillée. Les relations entre le Burundi et la Belgique se sont détériorées au lendemain de la confirmation du président burundais pour un troisième mandat. La Belgique appelle depuis lors à un dialogue inclusif, Bujumbura ne voulant pas s'asseoir avec ceux qui ont voulu faire le coup d'État en mai de l'année dernière. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au moins 6 personnes, pour la plupart des soldats, ont été tuées et plusieurs blessées dans un attentat à la bombe en barrage tenu par l'armée somalienne hier à Mogadiscio. Le point avec Nani Talani.
Abdi Fitta Omar Alan, porte-parole de l'administration locale, a déclaré à la Voix de l'Amérique que l'explosion a eu lieu à un poste de contrôle à l'entrée de Mogadiscio. Des soldats et des civils ont été tués ou blessés, dont des enfants. Des passagers à bord d'un minibus ont été aussi touchés par des éclats. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les islamistes Chebab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations. Au cours d'un incident séparé, un kamikaze a fait exploser sa voiture piégée près d'un restaurant fréquenté de Mogadiscio, blessant 7 personnes, la plupart des journalistes locaux. Ces nouvelles attaques surviennent alors que la Somalie est engagée dans un processus d'élection indirecte qui doit aboutir à la désignation d'un nouveau président avant la fin de l'année.
La France a une nouvelle fois souhaité la restitution aux familles des corps des victimes du crash du vol Paris-Le Caire en mai dernier. L'Égypte a annoncé hier que des traces d'explosifs ont été détectées sur les restes des corps. Tatiana Mosso.
Le ministère égyptien de l'aviation a annoncé hier la saisine du parquet. Un rapport de la commission d'enquête égyptienne a fait état de traces d'explosifs sur les restes de victimes. En France, Romain Nadal, porte-parole du Quai d'Orsay, appelle à la restitution rapide des dépouilles aux familles. Pour Stéphane Jiquel, secrétaire général de la Fédération française des victimes d'attentats, aucun élément ne permet d'accréditer la piste terroriste. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile affirme qu'il n'est pas possible à ce stade de tirer des conclusions sur l'origine du crash. Le vol Égyptair venant de Paris vers le Caire s'est écrasé en Méditerranée le 19 mai après avoir disparu des écrans radars. 66 personnes à bord, dont 40 Égyptiens et 15 Français, ont été tuées. Les enquêteurs français privilégient l'hypothèse d'un accident technique alors que les autorités égyptiennes penchaient davantage pour l'hypothèse terroriste. Une des deux boîtes noires a révélé que des alertes signalant de la fumée à bord s'étaient déclenchées avant le crash de l'Airbus A320.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé hier de 24 heures le mandat de ces casques bleus au Soudan du Sud, mandat qui venait à expiration le même jour. Il espère pouvoir prendre aujourd'hui une décision sur un nouveau mandat. La Russie, notamment, a émis des objections sur plusieurs points du texte proposé par les États-Unis pour une prorogation d'un an, en particulier une référence à des sanctions que le Conseil pourrait prendre contre les belligérants et une autre à l'utilisation de drones par la MINUS, la mission onusienne, ce que n'accepte pas le gouvernement sud-soudanais.
Le Maroc a officiellement entamé hier une nouvelle phase de régularisation de migrants en situation irrégulière en recevant les premières requêtes de ces étrangers clandestins, a constaté un journaliste de l'AFP. Le roi Mohamed VI avait ordonné lundi le lancement d'une deuxième phase de régularisation. Aucune précision n'a été donnée sur le nombre de personnes qui pourraient être concernées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise syrienne, les États-Unis misent encore sur la tenue de pourparlers de paix à Genève malgré la défaite des rebelles à Alep. Et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour tenter d'obtenir le déploiement dans cette ville d'observateurs internationaux chargés de surveiller les opérations d'évacuation de civils et de rebelles qui pourraient prendre des jours. Des milliers de personnes ont été évacuées hier d'Alep, un mois après une offensive dévastatrice du régime qui s'apprête à proclamer sa plus importante victoire de la guerre avec la reprise totale de la deuxième ville de Syrie. Cher Ruben Dorcil.
Pour le chef de la diplomatie américaine, seule la voie de la négociation peut aboutir à une solution viable en Syrie. Si Alep tombe, ce ne sera pas la fin de la guerre, a dit John Kerry hier devant la presse à Washington, ajoutant que plusieurs acteurs, y compris l'opposition, sont prêts à des pourparlers de paix. La seule question encore sans réponse, c'est de savoir si le régime syrien, avec l'appui de la Russie, est prêt à se rendre à Genève et négocier de façon constructive, et s'il est disposé à mettre fin au massacre de son propre peuple, a dit John Kerry. De son côté, le président Bachar al-Assad a affirmé que les Syriens écrivaient l'histoire avec la libération en cours de la seconde ville du pays. Après des mois de déluge de feu sur les quartiers rebelles, des centaines de civils ont été tués, plus de 100 000 autres affamés et assiégés ont été poussés à la fuite. Hier, le premier convoi de près de milliers de personnes, dont 200 rebelles et 108 blessés, a quitté le secteur à bord de 13 ambulances et 20 autobus. La Russie, l'Iran et la Turquie doivent tenir une réunion le 27 décembre à Moscou pour discuter d'une solution politique à ce conflit qui a fait plus de 310 000 morts depuis mars 2011.
Les États-Unis vont riposter face aux actes de piratage informatique de la Russie lors de l'élection présidentielle américaine. C'est ce qu'a affirmé hier soir le président Barack Obama au micro de la radio publique américaine NPR. Il est clair que si un gouvernement étranger, quel qu'il soit, tente d'entacher l'intégrité de nos élections, alors nous devons agir, a souligné M. Obama, et nous le ferons au moment et où nous le déciderons.
Pour sa part, le président élu Donald Trump a annoncé hier la nomination comme ambassadeur en Israël de l'avocat David Friedman. Ce dernier a dit avoir hâte de remplir sa mission dans la capitale éternelle d'Israël, c'est une citation, Jérusalem, ce qui touche un point très sensible dans la région. Monsieur Friedman reprend ainsi une promesse de campagne du républicain qui a assuré que les États-Unis reconnaîtraient Jérusalem comme la capitale d'Israël et y installeraient leur ambassade s'il devenait président. Washington ainsi que la majorité de la communauté internationale ne reconnaît pas Jérusalem comme la capitale d'Israël et maintient son ambassade à Tel Aviv.
L'Américain Dylan Roof a été déclaré hier coupable de 33 charges fédérales dont il était accusé devant un tribunal de Caroline du Sud. C'est lui qui avait perpétré la tuerie raciste en 2015 dans une église noire de Charleston. L'homme de 22 ans qui n'a jamais exprimé de remords a écouté debout l'énoncé du verdict sans trahir d'émotion. Il encourt la peine de mort lors de la phase sentence début janvier. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Libéralisation de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire après un demi-siècle de monopole public. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a autorisé 4 télévisions privées commerciales à la suite d'un appel d'offres lancé fin mai. Les États-Unis ont sanctionné la banque italienne Intesa San Paolo à 235 millions de dollars d'amende pour violation de la législation anti-blanchiment. Sa branche new-yorkaise a pendant plusieurs années effectué des opérations impliquant des sociétés fictives et tenté de les dissimuler aux régulateurs américains. Enfin, l'Amérique latine connaît une forte hausse de chômage. L'Organisation internationale du travail a indiqué que cette situation dépasse le niveau de la crise financière de 2008-2009. Déplorant la qualité du travail, la chute des salaires et la montée de l'emploi précaire, l'OIT a enregistré 25 millions de chômeurs, 5 millions de plus que l'an dernier dans 13 des 19 pays de la région. Le Brésil, première économie latino-américaine, est principalement touché.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Idrissa.
Coupe du monde des clubs de foot, le Real Madrid se qualifie logiquement pour la finale.
Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale en disposant des Mexicains d'América 2-0 lors de la demi-finale à Yokohama, avec des buts de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Le club espagnol, qui porte désormais à 36 matchs sa série record d'invincibilité, affrontera l'équipe japonaise des Kashima Antlers. Ce sera dimanche lors de la finale. Le Real qui vise son deuxième titre dans l'épreuve, créé en 2000 après celui décroché en 2014. On rappelle, Idrissa, que l'année dernière, c'est le grand rival qui avait décroché le titre, en l'occurrence le FC Barcelone.
Incertitude pour l'Ivoirien Bailly sur sa participation à la CAN 2017.
Blessé et absent plusieurs semaines en raison d'une blessure à un genou, le défenseur ivoirien de Manchester United a rejoué mercredi contre Crystal Palace à l'occasion de la 16e journée de la Premier League. Oui, mais voilà, il est à nouveau sorti sur blessure. On ne sait pas à quel point c'est sérieux, a déclaré l'entraîneur des Red Devils, José Mourinho, à l'issue de la rencontre. Le joueur sera fixé prochainement sur la nature de la blessure et surtout, il saura s'il participera ou non à la CAN 2017 au Gabon. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Chicago-Milwaukee, 97-108. Indiana-New Orleans, 95-102. Portland-Denver, 120-132. San Antonio-Phoenix, 107-92.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les États-Unis ont réitéré leur appel aux autorités camerounaises, appel à résoudre par le dialogue les violentes manifestations des anglophones du pays qui se disent marginalisés. Washington se dit préoccupé par les violations des droits de l'homme en rapport avec ces manifestations. L'ambassadeur américain à Yaoundé, Michael Rosa, a discuté de ce dossier avec le président camerounais Paul Biya, qu'il a récemment reçu. Timothée Donangmaï a recueilli les explications du ministre camerounais de la communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakary.
Aussi longtemps que ces manifestations n'étaient pas violentes, la police s'est contentée simplement de l'encadrement. Mais c'est quand il y a eu donc des forces centrifuges, des éléments incontrôlés qui se sont donc infiltrés aussi bien dans les rangs des uns et des autres que le gouvernement du haut du pouvoir dont il est investi a estimé qu'il fallait que la police et la gendarmerie descendent donc sur les lieux de cette contestation violente pour la protection physique des hommes, pour la protection de leurs biens, pour la protection des bâtiments publics et des bâtiments privés. C'est donc dans ce cadre, malheureusement, qu'il y a eu des échafaudés. Et puis, nous avons eu à déplorer la vie de deux personnes.
Qu'en est-il du fond du problème, à savoir la plainte des anglophones selon laquelle ils sont marginalisés, de même que leur langue?
Notre constitution fait de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale importance. Et de ce fait, tout document officiel devrait être rédigé dans les deux langues. Les avocats, les premiers, se sont plaints de ce que les textes de l'OADA n'étaient rédigés qu'en français. Ils ont raison. Le chef de l'État a instruit les dirigeants de l'OADA, qui est une institution privée, a instruit donc l'OADA que les textes en français soient traduits en anglais. Parce qu'au départ, l'OADA ne concernait que quatre pays d'expression française. Maintenant, ce problème est réglé. Mais s'il y a maintenant d'autres problèmes de même nature, le gouvernement est ouvert, disposé à recevoir les revendications des uns et des autres. Et c'est dans le cadre donc du dialogue et de la concertation que ça doit être réglé. Les anglophones disent qu'ils sont frustrés, marginalisés, ostracisés. Le gouvernement dit, est-ce qu'il y a un problème spécifiquement anglophone? S'il y a un tel problème, apportez-le. Mais apportez-le également au regard des lois et de la constitution de la nation.
Il est connu qu'au niveau de l'administration camerounaise, le français est beaucoup plus utilisé que l'anglais.
Le français n'aurait jamais dû être plus parlé que l'anglais. Bon, mais que voulez-vous, il y a également un phénomène que vous ne pouvez pas ignorer. Des 10 régions, vous avez quand même 8 régions qui parlent le français, contre 2 régions où la langue anglaise est parlée. La deuxième chose que je mentionne aujourd'hui, les enfants de tous les francophones sont dans des écoles bilingues, en particulier dans des écoles d'expression anglaise. Nous sommes convaincus aujourd'hui, compte tenu des statistiques, que la deuxième, la troisième génération à partir de nous sera plus anglophone, peut-être anglophile, que francophone et francophile. Les statistiques sont là pour l'attester. Les anglophones disent également que dans leur région, on se sert de professeurs qui parlent français, et ainsi de suite. Je voudrais vous rappeler qu'on envoie les Français pour enseigner le français dans la zone anglophone. Mais on envoie également des anglophones pour enseigner l'anglais dans la zone francophone. Mais vous avez 8 régions de la zone francophone contre 2 de la région anglophone. Donc la probabilité est forte qu'on ait recruté plus d'anglophones pour enseigner l'anglais aux francophones que de francophones qu'on recruterait pour enseigner le français aux anglophones.
C'était le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakary, joint à Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a mis fin au monopole de plus de 50 ans de la télévision publique. Elle a attribué 4 licences de télévision privée commerciale pour libéraliser le secteur. Des proches du président Alassane Ouattara en sont notamment bénéficiaires. Éric Manirakiza a joint en France le consultant en communication politique Toussaint Alain.
Il faut dire que ce processus de libéralisation a été amorcé en réalité en 1992 avec les premières radios de proximité. 150 stations avaient alors été créées. Et il y a eu également des radios commerciales comme Nostalgie qui est la propriété de Mme Ouattara et de l'actuel ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. Et le gouvernement de l'époque dirigé par M. Alassane Ouattara avait aussi concédé une fréquence à Canal Horizon pour sa chaîne à péage. Alors, 25 ans après, on aurait pu penser à une avancée, mais c'est en réalité une régression. Parce que
Dans quel sens ?
Quand on regarde de près les noms des 4 sociétés soumissionnaires avec leur actionnariat, on se rend compte que M. Ouattara a joué au Père Noël en apportant dans sa hotte des fréquences pour l'exploitation de télévision privée sur la TNT gratuite au seul bénéfice de personnes appartenant à son clan et à sa famille politique. Donc il s'agit, à mon sens, d'une vraie fausse libéralisation, car au lieu de la restriction de l'intervention politique et sociale de l'État dans ce secteur, on observe que le pouvoir Ouattara maintient sa mainmise et son influence sur l'espace audiovisuel.
Mais c'est une étape, l'ouverture de l'espace téléviseur est quand même lancée.
En effet, mais ce qui apparaît comme un coup d'accélérateur est un coup de frein parce que des dizaines d'opérateurs du secteur, notamment nationaux, attendent cette libéralisation depuis plusieurs décennies. Et il y a non seulement ces professionnels, mais il y a aussi les jeunes diplômés sortis des écoles, des universités, formés aux médias de l'audiovisuel qui attendent que des opérateurs s'installent. Et puis il y a la nécessité de redynamiser le secteur de la publicité. Or, cette libéralisation biaisée va faire une victime de taille, en l'occurrence la presse écrite, qui, à mon sens, ne pourra pas survivre à cette libéralisation parce qu'elle est inéquitable, parce qu'elle ne se fait qu'au profit d'un clan. Je voulais rappeler que les 4 sociétés qui sont Live TV, par exemple contrôlé par M. Fabrice Savignon, qui est le conseiller en communication de M. Ouattara, Optimum Média, dont l'actionnaire principal, M. Jean-Philippe Caboret, dirigeait déjà le comité chargé de piloter le passage à la TNT. Il est lui-même le fils de Mme Henriette Diabaté, qui est grande chancelière de Côte d'Ivoire. Et puis la société audiovisuelle de Côte d'Ivoire, qui est une filiale de Canal Plus Overseas, a pour actionnaire Nathalie Folorou, qui est la fille de Dominique Ouattara, la première dame. La société Sorano Côte d'Ivoire, qui édite Radio Nostalgie, est contrôlée par Loïc Folorou et Nathalie Folorou, les enfants de Dominique Ouattara.
Il y a eu un appel d'offres. Peut-être ils ont été les seuls à remplir les conditions. Y avait-il d'autres concurrents ?
Naturellement, il y avait plusieurs concurrents, je crois au moins une quinzaine, mais la plupart de ces concurrents ont été récalés, pas seulement par les conditions qui étaient posées, parce que l'appel d'offres exigeait de ces candidats de déposer une caution d'1 milliard de francs CFA, c'est-à-dire environ 1,5 million d'euros. Je ne pense pas que cela soit difficile forcément pour des investisseurs de trouver ces sommes. Je pense que l'élément déterminant ici a été le facteur politique. Le gouvernement n'a pas envie d'autoriser des chaînes de télévision qui pourraient échapper à son contrôle.
Le consultant Toussaint Alain, joint en France.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
L'égalité des chances pour chaque enfant, c'est le titre du rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde 2016, publié le 12 décembre dernier. Ce document met l'accent sur les inégalités et leurs conséquences pour le développement. Notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, nous parle des efforts faits au Togo pour réduire de telles inégalités dans le pays.
Les inégalités mettent en péril la vie de millions d'enfants et constituent une menace pour l'avenir de la planète. C'est la conclusion du rapport 2016 du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF sur la situation des enfants dans le monde. L'éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté sont des facteurs sur lesquels le Togo doit jouer, tout comme d'autres pays en Afrique subsaharienne, pour assurer une égalité des chances pour chaque enfant. Isselmou Boukari, représentant résident de l'UNICEF au Togo.
En investissant pour la santé et l'éducation des enfants, nous avons un retour d'investissement de l'ordre de plus de 10 fois. Ça veut dire que si on investit 1 dollar dans l'éducation d'un enfant, on gagne 10 dollars dans l'avenir parce que ce sont ces enfants-là qui vont être les acteurs de demain. Donc en investissement donc, vers les populations les plus défavorisées et les enfants défavorisés, nous contribuons en réalité au développement réel de l'Afrique de demain.
Au Togo, les inégalités entre les enfants sont perceptibles principalement sur deux fronts que sont le sexe et le milieu de résidence. Sur le plan de l'éducation, 63% des enfants au cours secondaire vivent en milieu urbain contre 39% en milieu rural. 42% sont des filles et 55,2% sont des garçons. Depuis 2008, le Togo a supprimé les frais de scolarité dans le préscolaire et le primaire. Une mesure insuffisante pour parler de gratuité de l'éducation, estime le Forum des organisations de défense des droits des enfants au Togo. Ghislain Alédi, coordonnateur du FODET.
Les efforts sont en train d'être faits en ce qui concerne la cantine scolaire, mais pour deux régions. Mais en matière des droits de l'enfant, je crois qu'il y a le caractère holistique. Donc il faudrait penser à étendre ça sur l'étendue du territoire national. Et au-delà de ça aussi, il y a la rémunération des enseignants, qui est un facteur aussi capital pour pouvoir donner l'égalité de chance à tout un chacun.
Chérifa Touadamou, 15 ans, invite la société togolaise à mieux prendre en compte les difficultés auxquelles les enfants togolais font face.
Il y a la scolarisation. Il y a des enfants dans la rue qui se débattent pour vivre. Il y a des enfants qui ne sont pas en bonne santé. Et il y a aussi des enfants qui n'ont aucune assistance sociale, aucune personne à qui dire leurs problèmes, le mal qu'ils ont. Donc je dirais que les parents, toute la société, y compris l'État, le gouvernement, tout le monde doit mettre sa main à la pâte pour participer au développement de notre pays en donnant une chance égale aux enfants.
Devant ce vaste chantier d'égalité des chances pour chaque enfant, le gouvernement togolais sollicite le secteur privé à lui prêter main forte. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Dernier épisode de la série de VOA Afrique sur Flint, Nastasia Peteuil est allée à la rencontre de deux pasteurs qui accompagnent leurs paroissiens dans cette crise sanitaire.
À chaque coin de rue, on peut voir une église. Elles sont aussi nombreuses que les magasins qui vendent de l'alcool. Dans la ville désertée de Flint, l'église reste un des piliers de la communauté. Les distributions d'eau se font chaque dimanche. Le pasteur Harris, très impliqué dans les combats judiciaires, appelle à la solidarité.
Mon église n'a pas perdu de paroissiens, nous remercions Dieu pour cela, alors que de nombreuses familles ont quitté Flint. Au jour le jour, la personne qui est seule et qui a des ressources limitées doit être secourue en allant dans sa maison et en lui donnant ce dont elle a besoin.
Lors de chaque messe, les pasteurs ont un mot pour la famille et encouragent la solidarité et l'entraide. Bien que l'église s'organise pour aider les habitants à survivre, le pasteur Harris regrette que ses paroissiens soient toujours dans l'attente d'aide de l'État du Michigan.
On leur a donné des bouteilles d'eau et des filtres. Je peux vous les montrer dans mon église. Mais il y a un meilleur moyen d'affronter la crise, car le problème n'est toujours pas résolu. Nous voulons que l'État trouve une solution et prenne ses responsabilités.
Les habitants se confient plus facilement à leur pasteur sur les inquiétudes quotidiennes. Le pasteur Dawson aide comme il peut ses paroissiens.
Nous avons eu de nombreux retours au sein des membres de notre paroisse. Ils viennent vers nous avec leurs problèmes et leurs frustrations lors des distributions d'eau. On essaie de renseigner les gens pour qu'ils aillent chercher l'aide dont ils ont besoin.
Le groupe Concerned Pastor, en français les pasteurs inquiets, ont mené une lutte jusqu'à la Cour de justice du Michigan pour demander des réparations. Une de leurs premières victoires, qu'ils espèrent ne pas être la dernière.
Nastasia Peteuil. Merci Nastasia. Notre série s'arrête donc là, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller lire le reportage L'eau de la colère sur le site www.voafrique.com. Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedougia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.